Onzième partie. La grotte de Marysville. 27 juillet. Jack se réveilla à 4 heures du matin. Dehors, le vent soufflait, fort, et il avait mal partout. Pas uniquement dans la nuque, mais dans les bras, les jambes, le ventre, les fesses. Ça ressemblait à un énorme coup de soleil. Il repoussa les couvertures, s'assit au bord du lit et alluma la lampe de chevet, qui projetait une faible lumière cireuse. Il s'examina sans découvrir une seule trace sur sa peau. C'était à l'intérieur.
« Je ferai ce que vous voulez, » dit-il au visiteur. « Je les arrêterai. Vous avez ma parole. »
Pas de réponse. Le visiteur ne voulait pas répondre. Ou bien, il n'était pas là. Pour le moment. Car il était venu. Là-bas, dans cette foutue grange. Un frôlement de la main, une chatouille, presque une caresse. Mais cela avait suffi. Depuis, son corps était rempli de poison. Le poison du cancer. Et à cet instant, dans cette chambre de motel pourrie, en pleine nuit, Jack n'était plus certain que le visiteur puisse reprendre ce qu'il lui avait donné. Mais avait-il le choix? Il devait essayer. Et si ça ne marchait pas?
Je me flinguerai?
Cette idée lui fit du bien. Sa mère n'avait pas eu cette option. Il répéta, avec davantage de détermination.
Je me flinguerai!
Plus de gueule de bois. Plus de retour au bercail en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse et les feux, de peur d'être arrêté, car il savait que l'alcotest indiquerait au moins 1 gramme, peut-être même 1,2 gramme. Plus de coups de téléphone de son ex pour lui rappeler qu'il avait du retard, une fois de plus, dans le paiement de la pension alimentaire, comme s'il ne le savait pas. Que ferait-elle si l'échec cessait d'arriver? Elle serait obligée de travailler. Elle verrait comment vit l'autre moitié. Sniff, sniff. Fini de passer ses journées à regarder des talk-shows à la télé. Quel dommage. Il s'habilla et sortit. Il eut l'impression que le vent frais le transperçait. Quand il avait quitté Flint City, il faisait chaud, et il n'avait pas pensé à prendre une veste, ni des vêtements de rechange, ni même une brosse à dents. Il entendait son emmerdeuse de femme lui dire
« Je te reconnais bien là, mon chéri. C'est tout toi, toujours à la ramasse. »
Des voitures, des pick-up et quelques camping-cars s'alignaient le long du motel tels des chiots qui têtent. Jack emprunta le passage couvert afin de s'assurer que le SUV bleu marine des fouilles merdes était toujours là. Oui. Couchés dans leur lit, ils faisaient de beaux rêves exempts de douleur. Un court instant, il imagina qu'il entrait dans les chambres et qu'il les abattait l'un après l'autre. Une idée séduisante, mais ridicule. Il ignorait quelle chambre ils occupaient, et il y en aurait forcément un, pas nécessairement le fouille merde en chef, pour riposter. Après tout, on était au Texas, où les gens aimaient croire qu'ils vivaient encore à l'époque des cow-boys et des duels au pistolet. Mieux valait aller les attendre à l'endroit indiqué par le visiteur. Là, il pourrait les abattre en étant quasiment sûr de ne pas être inquiété. Il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Et si le visiteur pouvait faire disparaître le poison une fois le travail effectué, tout se terminerait bien. Dans le cas contraire, Jack avalerait le canon de son Glock de service et presserait la détente. L'image de son ex-femme travaillant comme serveuse ou dans l'usine de gants locale durant les 20 prochaines années l'amusait. Mais ce n'était pas ce qui le motivait le plus. Il ne finirait pas comme sa mère, dont la peau se déchirait au moindre geste. Voilà ce qui le motivait. Il monta à bord de son pick-up en frissonnant et prit la direction de la grotte de Marysville. La lune, posée au ras de l'horizon, ressemblait à une pierre froide. Les frissons se transformèrent en tremblements, si violents que 2 ou 3 fois, les roues du véhicule franchirent la bande blanche pointillée. Pas de danger. Les poids lourds empruntaient la Highway 190 ou la Nationale. À cette heure indue, personne d'autre ne roulait sur la Rural Star. Quand le moteur du RAM fut chaud, Jack mit le chauffage, à fond, et il se sentit mieux. La douleur dans la partie inférieure de son corps s'atténua. En revanche, sa nuque continua à lui faire un mal de chien, et lorsqu'il la frictionna, il retira sa main couverte de scories de peau morte. L'idée l'effleura que cette douleur provenait d'un authentique et banal coup de soleil, alors que tout le reste n'existait que dans sa tête. Psychosomatique, comme les migraines à la con de son emmerdeuse de femme. Une douleur psychosomatique pouvait-elle vous arracher à un sommeil profond? Il l'ignorait, mais il savait que le visiteur caché derrière le rideau de douche était bien réel. Et on n'avait pas envie de jouer au plus malin avec un type pareil. On avait intérêt à faire exactement ce qu'il vous demandait. Sans oublier cet enfoiré de Ralph Anderson, qu'il ne lâchait pas. Monsieur pas d'avis qu'il avait obligé à interrompre son séjour de pêche parce qu'il avait été suspendu. Putain de congé administratif. C'est à cause d'Anderson, l'enfoiré, qu'il s'était rendu à Canning Township, au lieu de rester peinard dans sa petite cabane à regarder des DVD et à boire des vodka toniques. Au moment où il bifurquait au niveau du panneau « fermé jusqu'à nouvel ordre », une vision soudaine lui fit l'effet d'une décharge électrique. Anderson, l'enfoiré, l'avait peut-être envoyé là-bas exprès. Il savait que le visiteur l'attendait et ce qu'il allait faire. Ralphie voulait se débarrasser de lui depuis des années. C'était d'une logique imparable. La seule chose que n'avait pas prévu Ralphie, c'était qu'il se ferait doubler par le type au tatouage. Quant à l'issue de ce colossal merdier, Jack voyait trois options. Le visiteur réussissait à faire disparaître le poison qui circulait dans son organisme. Option numéro 1. C'était un problème purement psychosomatique qui finirait par se régler tout seul. Option numéro 2. Ou bien, c'était une maladie réelle et le visiteur ne pouvait rien y faire. Voilà pour l'option numéro 3. Quelle que soit la bonne, M. Padavi appartiendrait bientôt au passé. Une promesse que Jack fit non pas au visiteur, mais à lui-même. Anderson allait disparaître, et les autres avec lui. Le grand ménage. Jack Hoskins, American Sniper. Arrivé devant la billetterie, il contourna la chaîne. Le vent retomberait certainement quand le soleil se lèverait, et la température recommencerait à grimper. Mais pour l'instant, il soufflait toujours et soulevait des nuages de poussière. Tant mieux. Les fouilles-mères ne risquaient pas de repérer ses traces, s'il venait jusqu'ici.
S'ils ne viennent pas, vous pourrez quand même me guérir ?
Demanda-t-il. Il n'attendait pas de réponse, et pourtant, il entendit.
« Ah oui, sois tranquille. »
Était-ce une vraie voix, ou seulement la sienne ? Quelle importance ! 2. Au volant de son pick-up, Jack passa devant les bungalows délabrés pour touristes, en se demandant qui pouvait avoir envie de claquer du fric pour loger à côté de ce qui n'était rien d'autre qu'un trou dans la terre. N'y avait-il pas des endroits plus intéressants ? Yosemite, le Grand Canyon, même la plus grande boule de ficelle au monde valait mieux qu'un vulgaire trou dans un coin paumé et poussiéreux du Texas. Il se gara à côté du hangar, comme lors de sa précédente visite, prit la lampe torche dans la boîte à gants et alla chercher la Winchester et une boîte de munitions dans la caisse à l'arrière. Après avoir fourré les cartouches dans sa poche, il s'engagea sur le chemin, puis fit demi-tour et pointa le faisceau de la lampe sur une des fenêtres poussiéreuses de la porte à enroulement du hangar. En songeant qu'il pourrait peut-être dénicher un truc utile. Non. Mais ce qu'il vit lui arracha un sourire. Une petite voiture compacte. Une Honda ou une Toyota, couverte de poussière elle aussi. Un autocollant sur la vitre arrière proclamait « Mon fils a obtenu son diplôme avec mention au lycée de Flint City ». Poison ou pas, les talents d'enquêteur de Jack, rudimentaires, restaient intacts. Son visiteur se cachait ici. Il était venu de Flint City, à bord de cette voiture volée. Il se sentait mieux déjà. Et il avait faim, pour la première fois depuis que cette main tatouée était apparue derrière le rideau de la douche. Il regagna son pick-up et fourragea dans la boîte à gants. Il finit par exhumer un paquet de crackers au beurre de cacahuète et un demi-rouleau de pastilles à la menthe Tums. Pas exactement un petit déjeuner de champion, mais c'était mieux que rien. Il attaqua l'ascension du chemin, en mâchonnant un des crackers et en tenant la carabine dans sa main gauche. Il aurait pu la porter à l'épaule, mais il craignait que la sangle frotte contre sa nuque et la fasse saigner. Ses poches, alourdies par les cartouches, se balançaient et cognaient contre ses jambes. Il s'arrêta devant le panneau décoloré de l'Indien, le vieux chef bison futé affirmant que Caroline Allen suçait sa queue de peau rouge, frappé par une pensée soudaine. Quiconque empruntait la route menant au bungalow verrait son rame garé à côté du hangar et se demanderait ce qu'il faisait là. Il envisagea de rebrousser chemin pour le déplacer, puis décida qu'il s'inquiétait sans raison. Si les fouilles-mères venaient, il stationnerait près de l'entrée principale. Et dès qu'il descendrait de leur SUV pour examiner les environs, il ouvrirait le feu de son perchoir et il en buterait deux ou trois avant qu'ils aient eu le temps de dire ouf. Les autres détaleraient comme des poulets en plein orage. Il les abattrait avant qu'ils puissent se mettre à couvert. Inutile de se soucier de ce qu'ils verraient ou pas en atteignant les bungalows, car M. Padavy n'irait pas plus loin que le parking. 3. Le chemin qui menait au sommet de la falaise était traître dans l'obscurité, même avec l'aide d'une lampe, et Jack prit tout son temps. Pas question de tomber et de se casser quelque chose. Il avait déjà suffisamment de problèmes. Lorsqu'il atteignit enfin son poste d'observation, l'aube commençait à poindre dans le ciel. Il braqua sa lampe sur la fourche qu'il avait laissée à cet endroit la veille. Au moment où il allait la ramasser, il eut un mouvement de recul. Il espérait qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais présage pour le déroulement de cette journée, mais il y avait là une ironie que, même dans son état, il était capable d'apprécier. Il avait pris cette fourche pour se protéger des serpents, et voilà qu'il y en avait un couché à côté et en partie dessus. Un serpent à sonnette précisément, et pas un petit, un véritable monstre. Pas question de lui tirer dessus. La balle risquait de seulement le blesser, auquel cas cette saloperie l'attaquerait à coup sûr. Et il n'était chaussé que de baskets, n'ayant pas pensé à acheter des bottes à Tipit, sans parler des dégâts qu'un possible ricochet pouvait provoquer. Tenant sa carabine par l'extrémité de la crosse, il avança le canon le plus loin possible, très lentement. Il le glissa sous le corps du serpent endormi et l'envoya valdinguer par-dessus son épaule, sans lui laisser le temps de filer. L'horrible saloperie retomba sur le chemin, à 6 ou 7 mètres en arrière. Roulé en boule, le serpent commença à émettre un bruit évoquant une calebasse séchée remplie de perles que l'on agite. Jack ramassa prestement la fourche, avança d'un pas et repoussa le crotal, qui se faufila et disparut dans une crevasse entre deux rochers.
« Ouais, c'est ça !» dit Jack. « Tire-toi et ne reviens pas. C'est chez moi ici !»
Il s'allongea à plat ventre sur le sol et colla son œil à la lunette de la carabine. Il vit le parking aux bandes jaunes fantomatiques, la boutique de souvenirs délabrés, l'entrée de la grotte condamnée par des planches et le panneau fixé au-dessus, délavé mais encore lisible. « Bienvenue à la grotte de Marysville. » Il n'y avait plus qu'à attendre. 4. « On ne fera rien avant 9h, » avait dit Ralph. Mais dès 8h15, ils étaient réunis à la cafétéria de l'Indian Motel. Ralph, Howie et Alec commandèrent un steak et des œufs. Holly opta pour une omelette de 3 œufs avec des frites panées. Et Ralph se réjouit de l'avoir tout mangé. Une fois de plus, elle portait sa veste de tailleur par-dessus son t-shirt et son jean. « Il va faire chaud aujourd'hui, » lui dit-il.
« Oui, je sais. Et elle est toute froissée, mais elle a de grandes poches pour mettre tout mon bazar. Je vais prendre mon fourreau également, mais je le laisserai dans la voiture si on doit crapahuter. »
Elle se pencha en avant pour ajouter tout bas.
« Dans ce genre d'hôtel, les femmes de chambre volent parfois. »
Howie plaqua sa main sur sa bouche, pour étouffer un renvoi peut-être. Ou masquer un sourire. 5. Ils se rendirent chez les Bolton, où ils trouvèrent Yunel et Claude en train de boire un café, installé sur les marches de la terrasse. Lovey, assise dans son fauteuil roulant, arrachait les mauvaises herbes du petit jardin, sa bouteille d'oxygène sur les genoux, une cigarette au bec, un grand chapeau de paille vissé sur la tête.
« Tout s'est bien passé cette nuit ?» demanda Ralph.
« Impec, » répondit Yunel. Le vent faisait un peu de bruit derrière la maison, mais après avoir trouvé le sommeil, j'ai dormi comme un bébé.
« Et vous, Claude, tout va bien ?»« Si vous voulez savoir si j'ai eu l'impression que quelqu'un rôdait dans les parages, non. Maman non plus. »«
Il y a peut-être une explication, » dit Alec. « La police de Tipit a reçu un appel hier soir pour leur signaler une tentative d'intrusion. L'occupant de la maison a entendu un bruit de verre brisé. Il a pris son fusil et fait fuir le type. » Il a déclaré que l'intrus avait des cheveux noirs, un bouc et plein de tatouages.
Claude était scandalisé.
« Je suis pas sorti de ma chambre ?»«
Ne n'en doutons pas, » dit Ralph. « Il s'agit peut-être du type qu'on cherche. On va faire un saut à Tipit pour vérifier. S'il a fichu le camp, comme on le suppose, on reprendra l'avion pour Flint City et on avisera ensuite. »
« Même si je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, » ajouta Howie. « S'il ne traîne pas dans les parages et s'il n'est pas à Tipit, « il peut se trouver n'importe où. »«
Vous n'avez pas d'autre piste ?» demanda Claude. « Aucune, » dit Alec.
Lovey fit rouler son fauteuil jusqu'à eux.
« Si vous décidez d'entrer chez vous, arrêtez-vous ici sur le chemin de l'aéroport. Je vous ferai des sandwichs avec les restes de poulet, si ça vous embête pas d'en manger 2 jours de suite. »«
Entendu, » dit Howie. « Merci à tous les deux. »«
C'est moi qui devrais vous remercier, » dit Claude.
Il leur serra la main à tous
et sa mère écarta les bras pour étreindre Holly. Celle-ci, un peu surprise, se laissa faire.
« Revenez !»
lui murmura Lovie à l'oreille.
« Promis !»
répondit Holly, en espérant qu'elle pourrait tenir sa promesse. 6. Howie conduisait. Ralph était assis à l'avant, les trois autres à l'arrière. Le soleil s'était levé et la journée promettait d'être encore chaude.
« Je me demande comment les flics de Tippit ont fait pour vous contacter, » dit Yunel. « Je croyais que personne dans la police ne savait qu'on était ici. »«
Personne ne le sait, » répondit Alec. « Si cet outsider existe vraiment, on ne voulait pas que les Bolton se méfient en nous voyant partir dans la mauvaise direction. »
Ralph n'avait pas besoin de savoir lire dans les pensées pour deviner ce qu'il y avait dans la tête de Holly à cet instant.
« Chaque fois que les autres et vous parlez de lui, c'est au conditionnel. »
Ralph pivota sur son siège.
« Écoutez-moi, » dit-il. « Fini les si et les peut-être. Aujourd'hui, l'outsider existe. Aujourd'hui, il peut pénétrer dans l'esprit de Claude Bolton à sa guise et, sauf information contraire, il se trouve à la grotte de Marysville. Plus de suppositions, uniquement des convictions. Vous en êtes capable ?»
Personne ne répondit tout d'abord.
Puis Howie dit « Je suis avocat, mon gars. Je peux croire n'importe quoi. »
7. Ils atteignirent le grand panneau publicitaire montrant la famille ébahie munie de lampes à pétrole. Howie roula lentement sur la voie d'accès lézardée, évitant de son mieux les nid de poules. La température, qui était de 12 degrés quand il s'était mis en route, dépassait maintenant les 20 degrés et allait continuer à grimper.
« Vous voyez ce tertre là-bas ? »
dit Holly, doigt pointé.
« L'entrée de la grotte principale se trouve au pied, du moins jusqu'à ce qu'il la bouche. Commençons par là. Si l'outsider a tenté d'emprunter ce passage, il a peut-être laissé des traces. »
« Ça me va, » répondit Yunel en regardant autour de lui. « La vache, c'est paumé par ici. »
« La disparition de ses enfants et des sauveteurs a été une tragédie pour les familles, »
expliqua Holly.
« Et un désastre pour Marysville. La grotte était l'unique employeur de la ville. Quand elle a fermé, beaucoup d'habitants sont partis. »
Howie freina.
Là, ça devait être la billetterie, et j'aperçois une chaîne en travers de la route.
Contournez-la, dit Yunel. Ça fera faire de l'exercice aux suspensions. Howie s'exécuta. À bord du SUV, ses passagers attachés sautèrent sur leur siège. Mes amis, nous pénétrons officiellement sur une propriété privée. Un coyote jaillit des fourrés à leur approche et détala, suivi de près par son ombre élancée. Ralph aperçut des restes d'empreintes de pneus érodées par le vent et en déduisit que les jeunes du coin, il devait quand même en rester quelques-uns, venaient ici avec leurs quads. Mais ils se concentraient surtout sur la paroi rocheuse qui se dressait devant eux. Site de ce qui avait été l'unique attraction touristique de cette ville. Sa raison d'être, pour employer des grands mots.
« On est tous armés, n'est-ce pas ?» demanda Yunel.
Les hommes répondirent par l'affirmative. Holly Gibney ne dit rien.